France Inter. Les admirations littéraires de Fabrice Luchini sur France Inter.
Bonsoir, et bien voilà la dernière émission. Dernière émission, à quel point ça a été intéressant et j'espère que ça a plu aux auditeurs. Mais maintenant, je pars pour d'autres aventures. Je repars pour le Hugo, je repars pour le Cioran et je repars pour d'autres choses. Mais cette dernière émission, j'avais envie qu'elle soit sur la continuité de cette conversation de la semaine dernière autour de la poésie. S'interroger sur ce qu'est la poésie. Hein, rappelez-vous ce qu'on avait... Enfin, rappelez-vous, je ne vais pas faire le mec prof, hein, mais on a dit cette phrase extraordinaire de Paul Valéry. La plupart des hommes ont une idée si vague de la poésie que ce vague même de leur idée est pour eux la définition de la poésie. Évidemment, pour les gens, la poésie, c'est des gens un peu bizarres, un peu malades, c'est Chopin, c'est Georges Sand, c'est Musset, tout ça, c'est jamais très vivant, quoi. Et à l'opposé de la poésie, il y a le sport, il y a ces athlètes admirables, les joueurs de rugby, les joueurs de foot. Évidemment qu'eux, ils sont sublimes et que la poésie, c'est un peu des souffreteux en fin de piste, ce qui n'est pas d'ailleurs le cas de Rimbaud. Et donc, l'image dans le populaire de la poésie, c'est souvent quelque chose d'incompréhensible. Et c'est pour ça que j'avais fait ce spectacle, où j'avais osé dire que pour moi, par exemple, eh bien, bizarrement, La Biche, La Fontaine, c'est plus évident, mais La Biche, pour moi, c'est un poète. Je ne sais pas, moi, une page de Flaubert, je ne sais pas n'importe laquelle, quand il raconte cette femme merveilleuse qu'est Félicité. Tu sais, pendant un demi-siècle, les bourgeoises de Pont-l'Évêque envirent à Madame Aubin, sa servante, Félicité. Pour 100 francs par an, elle faisait la cuisine, le ménage, lavait, cousait, repassait, savait brider un cheval, engraisser les volailles, battre le beurre et resta fidèle à sa maîtresse. Qui cependant n'était pas une personne agréable. Donc, elle est la dame qui fait le ménage chez la méchante Madame Aubin. Elle transfère tout son amour sur un perroquet. Et pourquoi ? Parce qu'à un moment, elle va être tellement déçue par la vie sentimentale. Et le deuxième chapitre commence par « Elle avait eu comme une autre son histoire d'amour ». Son père, un maçon, s'était tué en tombant d'un échafaudage, puis sa mère mourut, ses sœurs se dispersèrent. Un fermier la recueillit et l'employa toute petite à garder les vaches dans la campagne. Elle grelottait sous les haillons, buvait à plat ventre l'eau des mares, à propos de rien était battue et finalement fut chassée pour un vol de 30 sous qu'elle n'avait pas commis. Elle entra dans une autre ferme, y devint fille de basse-cour, et comme elle plaisait au patron, ses camarades la jalousaient. Un soir du mois d'août, elle venait d'avoir 18 ans, il l'entraîna à l'assemblée de Colleville. Tout de suite, elle fut étourdie, stupéfaite par le tapage des ménétriers, la bigarrure des costumes, les dentelles, les croix d'or, cette masse de monde sautant à la fois. Elle se tenait à l'écart modestement. Bon, si c'est pas de la poésie, ça, l'hésitation, la timidité de cette femme, bon. Alors, moi, j'avais fait dans mon spectacle, j'avais osé dire qu'un dramaturge comme La Biche... Oui, un dramaturge comme La Biche. Et c'est marrant de faire cette dernière émission en hommage à La Biche. La Biche, il a dit cette phrase qu'on connaît mais qui est merveilleuse. « Qu'est-ce qu'un égoïste ? C'est un homme qui ne pense pas à moi. » Alors, La Biche est un écrivain extraordinaire. Je trouve ça... Feydeau est une merveille, mais La Biche a quelque chose de particulier. Et dans mon spectacle qui s'appelait « Poésie », point d'interrogation, je racontais la vie de Jules Frémissin, qui est un grand timide et qui est fou amoureux d'une jeune fille. Et cette jeune fille a un papa qui a la même névrose, la même pathologie. J'avais un peu psychanalysé les deux timides. C'est-à-dire que le père de la fille est très timide et Jules Frémissin, le rôle que je jouais, est extrêmement timide. Donc, depuis des semaines, tous les jours, il débarque dans la villa pour essayer d'entrer, pour aller demander la main de la fille du monsieur. Mais sa névrose de timidité l'empêche, mais un jour, il y a une scène qui commence par, on le voit arriver dans un état, pas outrance, mais dans un état totalement angoissé. Il a réussi à traverser le jardin, il rentre dans le salon et il salue tout bas en disant « Monsieur, madame, j'ai bien l'honneur. » Il regarde autour de lui, il s'aperçoit qu'il est complètement seul et il regarde le public et il dit « Tiens, personne. » « Ah, tant mieux !» Moi, j'appelle ça de la poésie. Qu'est-ce que tu veux, le mec qui hurle en disant « Monsieur, madame, j'ai bien l'honneur !»« Tiens, personne !»« Oh, tant mieux !» Ce que je redoutais le plus, c'était de rencontrer quelqu'un. Je frissonne à l'idée de me trouver en présence de ce père qui sait que j'aime sa fille. Oh, mais oui, je l'aime. Depuis ce dîner où j'ai cassé un verre, je viens tous les jours à Chatou pour faire ma demande. J'arrive par le convoi de midi, je n'ose pas entrer et je repars par celui d'une heure. Si cela devait continuer, je prendrais un abonnement au chemin de fer. Mais aujourd'hui, j'ai eu du courage. J'ai franchi la grille sans ma tante qui n'a pu m'accompagner. J'adore ça, moi, sans ma tante qui n'a pu m'accompagner. Et je vais être obligé, moi-même, tout seul. Mais est-ce que ça se peut ? Mais est-ce que ça se peut ? Est-ce qu'il est possible de dire à un père qu'on ne connaît pas « Monsieur, voulez-vous avoir l'obligeance de me donner votre fille pour l'emmener chez moi ?» Et ah, non, on ne peut pas dire ces choses-là, puis jamais je n'oserais. Si je m'en allais, personne ne m'a vu. Je m'en vais, je reviendrai demain à midi. Il remontait vers le fond et il rencontre tout d'un coup Cécile, l'objet de son amour, l'objet qui l'angoisse. Alors là, c'est Cécile et Frémissin. Frémissin, trop tard, parce qu'évidemment, elle arrive trop tard. Elle, je ne me trompe pas, elle est folle, amoureuse de lui, elle aussi. Je ne me trompe pas, monsieur Jules Frémissin. Oui, monsieur. Oui, mademoiselle. À quel heureux hasard devons-nous l'honneur de votre visite ? Elle, très chaleureuse, hein. À quel heureux hasard devons-nous l'honneur de votre visite ? C'est bien le hasard, en effet, je passais, je cherchais le notaire. Ah, oui, j'ai affaire au notaire de Chatou. J'ai vu une grille, j'ai sonné, mais je vois que je me suis trompé. Mademoiselle, j'ai bien l'honneur. Mais attendez, dit-elle, mon père sera charmé de vous voir. Ne le dérangez pas ! Alors évidemment, je le jouais très excessif. Hein. Ne le dérangez pas, je me retire. Veuillez vous asseoir, dit la fille. Et là, il y a une phrase que j'adorais. Il s'asseyait fasciné et il disait, la regardait, il disait avec plaisir « Je ne suis pas fatigué. » Bah, pour moi, ça s'appelle de la poésie. Un mec qui s'assoit parce que la femme lui dit « Asseyez-vous avec plaisir, je ne suis pas fatigué. » Elle se tourne vers le public. Pauvre garçon, comme il est troublé. Lui, il se tourne vers le public. Qu'elle est jolie. Et là, il y a un tel temps qu'elle va essayer de dire « Monsieur, puis-je ?» Vous suppliez de quoi ? D'avoir la complaisance de me tenir mon sucrier. Et là, il la regarde, il dit avec bonheur, avec transport. Cécile choisit les morceaux de sucre dans la boîte et les met un à un dans le sucrier. Et là, il y a la plus belle réplique de tout le théâtre de la Biche. Il va se tourner vers le public et il va dire cette phrase géniale. Et si son père nous surprenait dans cette position ? Là, on peut la dire de mille manières. Hein. Et si son père nous surprenait dans cette position ? Et si son père nous surprenait dans cette position ? Il faut pourtant que je lui dise quelque chose, j'ai l'air d'un idiot. Mademoiselle Cécile ? Oui, monsieur Jules. Elle croit que ça va être le moment. Oui, monsieur Jules, il est bien blanc votre sucre. Comme tous les sucres ? Ah non, pas comme tous les sucres. Et là, c'est le génie. Elle se tourne vers le public et elle dit « Qu'est-ce qu'il a donc ?» Et là, c'est le chef-d'œuvre. Il se tourne et il dit au public « J'ai été trop loin. Est-il de canne ou de betterave ?»« Mais je ne sais pas. » Elle est très déçue. « Je n'en connais pas la différence. Elle est très grande. L'un est bien plus, tandis que l'autre est récolté par les nègres. C'est bien fait. Pourquoi vais-je me fourrer dans cette histoire de sucre ?» Et là, pour moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Si c'est pas de la poésie, hein, puis-je me permettre de vous demander de tenir mon sucrier avec bonheur, avec transport ? Comme ça, je suis sûr qu'il ne bougera pas. Et là, tout d'un coup, mais il faut pourtant que je dise quelque chose, j'ai l'air d'un... Et si son père nous surprenait dans cette position ? Il faut pourtant que je dise quelque chose, j'ai l'air d'un idiot. Mademoiselle Cécile ? Oui, monsieur Jules. Il est bien blanc, votre sucre ? Bah, il est comme tous les sucres. Non, pas comme tous les sucres. Elle, le génie. Mais qu'est-ce qu'il a donc ? C'est aussi génial que j'ai été trop loin. Est-il de canne ou de betterave? Je ne sais pas, je ne connais pas la différence. Et là, maintenant, vous savez quoi? On va écouter Like a Rolling Stones. Ouais, c'est incroyable. On va écouter Bob Dylan.
Once upon a time, you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with the mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal?
Alors évidemment, Bob Dylan, ça a été donc cet accompagnateur de nos vies, cette merveille de poète, même si je comprends très mal sa langue. En plus, on me dit souvent que quand on connaît ses textes, c'est admirable, mais on n'a rien à envier aux anglo-saxons et aux américains, parce que sans être chauvin, on n'est quand même pas mauvais, nous, en littérature et en génie. Non, quand je disais que la poésie se situe à tous les endroits, quand dans Le Voyage au bout de la nuit, Céline erre dans les rues de New York pendant 1929, pendant cette crise, où Céline erre complètement dépersonnalisée, cet extrait de ce chef-d'œuvre, quel voyage au bout de la nuit, je dis pas après la suite, je dis ce chef-d'œuvre, et en plus écrit quand même en 1900, sorti en 1932, donc avant toutes les horreurs céliniennes. Mais quand il erre et qu'il est dans un hôtel, il est écrabouillé par le bruit, il est 2h du matin, il ressort, il erre, et puis il arrive dans un cinéma en pleine nuit et qui dit, il faisait dans ce cinéma bon, doux et chaud. De volumineuses orgues tout à fait tendres, comme dans une basilique, des orgues comme des cuisses, on plonge en plein dans le pardon tiède. On n'aurait eu qu'à se laisser aller pour penser que le monde peut-être venait enfin de se convertir à l'indulgence. On y était soi presque déjà. Et là, il va raconter une chose merveilleuse. Alors les rêves montent dans la nuit pour aller s'embraser au mirage de la lumière qui bouge. C'est pas tout à fait vivant ce qui se passe sur les écrans. Il reste dedans une grande place trouble pour les pauvres, pour les rêves et pour les morts. Faut se dépêcher de s'en gaver de rêves pour traverser la vie qui vous attend dehors, sortie du cinéma. Durer quelques jours de plus à travers cette atrocité des choses et des hommes. On choisit parmi les rêves ce qui vous réchauffe le mieux l'âme. Pour moi, c'était, je l'avoue, les cochons. Faut pas être fier, on emporte d'un miracle ce qu'on peut en retenir. Voyez, 6 mois, cette phrase, alors les rêves montent dans la nuit pour aller s'embraser au mirage de la lumière qui bouge. C'est pas tout à fait vivant ce qui se passe sur les écrans. Il reste dedans une grande place trouble pour les rêves, pour les pauvres et pour les morts. Il faut se dépêcher de s'en gaver de rêves. Pour traverser la vie qui vous attend dehors, sortie du cinéma. Et donc, la poésie, elle est là aussi. Elle est là, évidemment, dans La Fontaine. Elle est là dans un texte merveilleux sur l'amour et la folie. C'est incroyable, vous comprenez, l'amour et la folie. Hein, il commence en nous disant un truc, est-ce que c'est poétique? En tout cas, c'est très étonnant. Il nous dit, en gros, que tout est mystère dans l'amour. Ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance. Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'épuiser cette science. Je ne prétends donc point tout expliquer ici. Mon but est seulement de dire, à ma manière, comment l'aveugle que voici, c'est un dieu, comment, dis-je, il perdit la lumière. Quelle suite eut ce mal, qui peut-être est un bien? J'en fais juge un amant et ne décide de rien. La folie et l'amour jouaient un jour ensemble. Celui-ci n'était pas encore privé des yeux. Une dispute vint. L'amour veut qu'on assemble là-dessus le conseil des dieux. L'autre n'eut pas la patience. Elle lui donne un coup si furieux qu'il en perd la clarté des cieux. Vénus en demande vengeance. Femme et mère, il suffit pour juger de ses cris. Les dieux en furent étourdis, et Jupiter et Némésis, et les juges d'enfer, en va toute la bande. Elle représenta l'énormité du cas, là c'est du merveilleux génie poétique, elle représenta l'énormité du cas, son fils sans un bâton ne pouvait faire un pas, c'est pas sublime ça, elle représenta l'énormité du cas, son fils sans un bâton ne pouvait faire un pas, si ça c'est pas de la pure poésie. Dire avec cette langue du 17e, elle représenta l'énormité du cas. Le cas c'est que l'autre lui a mis un coup de pompe dans les yeux qu'elle est aveugle. Hein, donc elle représenta l'énormité du cas, son fils sans un bâton ne pouvait faire un pas. Hein, moi je pourrais rester une demi-heure sur cette phrase. Hein, elle représenta l'énormité du cas, son fils sans un bâton ne pouvait faire un pas. C'est ça le génie poétique de La Fontaine, vous voyez, cette langue orale qui vient dans une langue écrite. Elle représenta l'énormité du cas, son fils sans un bâton ne pouvait faire un pas, nulle peine n'était pour ce crime assez grande. Le dommage devait être aussi réparé, quand on eut bien considéré l'intérêt du public, celui de la partie. Le résultat enfin de la suprême cour fut de condamner la folie à servir de guide à l'amour. Parce que tout est mystère dans l'amour. Ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance. C'est pas l'ouvrage d'un jour que d'épuiser cette science. Je ne prétends donc point tout expliquer ici. Mon but est seulement de dire à ma manière comment l'aveugle que voici, c'est un dieu. Comment dis-je, il perdit la lumière. Quelle suite eut ce mal, qui peut-être est un bien? J'en fais juge un amant et ne décide rien. La folie et l'amour jouaient un jour ensemble. Celui-ci n'était pas encore privé des yeux. Une dispute vint. L'amour veut qu'on assemble là-dessus le conseil des dieux. L'autre n'eut pas la patience. Elle lui donne un coup si furieux qu'il en perd la clarté des cieux. Vénus en demande vengeance. femme et mère, il suffit pour juger de ses cris. Les dieux en furent étourdis, et Jupiter, et Némésie, et les juges d'enfer, enfin toute la bande. Elle représenta l'énormité du cas. Son fils sans un bâton ne pouvait faire un pas. Nulle peine n'était pour ce crime assez grande. Le dommage devait être aussi réparé quand on eût bien considéré l'intérêt du public, celui de la partie, le résultat enfin de la suprême cour fut de condamner la folie à servir de guide à l'amour. Oh, si ça, c'est pas de la poésie, bon, bah d'accord. Et quand il nous parle de la mort, presque de manière cioranesque, quand il dit que l'horreur, c'est d'être né, comme dit Madame Dudéfant, tu sais, l'horreur, l'inconvénient d'être né de Cioran, parce que je suis en ce moment dans Cioran, en plus du Hugo, et il dit souvent que ce qui est horrible, et Madame Dudéfant avait ce génie d'avoir capté comme personne cette expérience insurmontable qui s'appelle l'ennui. Et pour une fois, ils définissent ce qu'est l'ennui. L'ennui, c'est constater la nullité de chaque instant avec la certitude que le suivant sera pire encore. Alors, évidemment, comme définition de l'ennui, c'est presque aussi extraordinaire que Blaise Pascal. En même temps, La Fontaine nous dit « Oui, vous trouvez tout ça pénible, la vie. Oui, oui, vous trouvez ça pénible. » Et pourtant, je vais vous raconter une histoire. Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée, sous le faîte du fagot, aussi bien que des ans, gémissant et courbé, marchait à pas pesant et tâchait de gagner sa chaumine en fumée. Enfin, n'en pouvant plus d'efforts et de douleurs, il met bas son fagot, il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? En est-il un plus pauvre en la machine ronde? Point de pain quelquefois et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée lui font d'un malheureux. La peinture achevée, il appelle la mort. Elle vient sans tarder, lui demande ce qu'il faut faire. C'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois. Tu ne tarderas guère, le trépas vient tout guérir, mais ne bougeons d'où nous sommes. Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. Vous comprenez ? Il répond à Cioran, La Fontaine, bien avant, évidemment, parce que Cioran, c'est 1980-1990, le moment où il est devenu très connu. Mais on dirait que pour l'éternité, La Fontaine nous raconte que tout le monde se raccroche, quelles que soient nos souffrances. Et il nous dit ça, quoi, avec cette histoire merveilleuse. Il faut quand même dire deux chefs-d'œuvre que La Fontaine a écrit, celui avec lequel je termine souvent ma lecture de La Fontaine et le confinement. Je la dis rarement ailleurs que sur une scène, mais bon, c'est la dernière séance, donc je vais essayer de vous lire ce que j'essaye de faire quand je jouais La Fontaine et le confinement. Vous savez, quand La Fontaine dit que la mort ne surprend point le sage, c'est d'une puissance philosophique hallucinante. Hein. La mort ne surprend point le sage. Il a l'air de dire comme ça, banalement, un truc qui est évidemment très loin de nous. Hein. Il dit que la mort ne surprend point le sage. Il est toujours prêt à partir, s'étant su lui-même avertir du temps où l'on se doit résoudre à ce passage. Ce temps, hélas, embrasse tous les temps, qu'on le partage en jours, en heure, en moment, il n'en est point qu'ils ne comprennent. Dans le fatal tribut, tous sont de son domaine, et le premier instant où les enfants des rois ouvrent les yeux à la lumière, et celui qui vient quelquefois fermer pour toujours leurs paupières, défendez-vous par la grandeur, alléguez la beauté, la vertu, la jeunesse. La mort ravit tout sans pudeur. Un jour, le monde entier accroîtra sa richesse. Il n'est rien de moins ignoré, et puisqu'il faut que je le dise, rien où l'on soit moins préparé. Un mourant qui comptait plus de 100 ans de vie se plaignait à la mort, que précipitamment elle le contraignait de partir tout à l'heure sans qu'il eût fait son testament. Sans l'avertir au moins, est-il juste qu'on meure au pied levé? Dit-il, attendez quelque peux. Ma femme ne veut pas que je parte sans elle. Il me reste à pourvoir un arrière-neveu. Ce fric à mon logis, j'ajoute encore une aile. Que vous êtes pressante, ô déesse cruelle. Vieillard, lui dit la mort, je ne t'ai point surpris. Tu te plains sans raison de mon impatience. Eh, n'as-tu pas 100 ans? Trouve-moi dans Paris 2 mortels, aussi vieux, trouve-moi 10 en France. Je devais, se dis-tu, te donner quelque avis qui te disposa à la chose. J'aurais trouvé ton testament tout fait, ton petit-fils pourvu, ton bâtiment parfait. Ne te donna-t-on pas des avis quand la cause du marché, du mouvement, quand les esprits, le sentiment, quand tout faillit en toi? Plus de goût, plus d'oui. Toute chose pour toi semble être évanouie. Pour toi, l'astre du jour prend des soins superflus. Tu regrettes des biens qui ne te touchent plus. Je t'ai fait voir tes camarades ou morts, ou mourants, ou malades. Qu'est-ce que tout cela qu'un avertissement? Allons, vieillard, et sans réplique. Il n'importe à la République que tu fasses ton testament. La mort avait raison. Je voudrais qu'à cet âge, on sortît de la vie ainsi que d'un banquet, remerciant son hôte et confie son paquet. Car de combien peut-on retarder le voyage? Tu murmures, vieillard. Vois ces jeunes mourir, vois les marcher, vois les courir à des morts, il est vrai, glorieuses et belles, mais sûres cependant et quelquefois cruelles. J'ai beau te le crier, mon zèle est indiscret. Le plus semblable aux morts meurt le plus à regret. Et chaque soir au théâtre, quand je jouais La Fontaine et le Confinement, il y avait ces 1000 personnes, là, je vais jouer à Versailles, c'est pas un appel du pied, je crois qu'ils ont vendu toutes les places, donc je le fais pas pour faire de la publicité. Mais quand j'ai joué La Fontaine et le Confinement, il y avait toujours ce moment où je terminais par là, où la fable se terminait par « La mort avait raison ». Je voudrais qu'à cet âge, on sortît de la vie ainsi que d'un banquet, remerciant son hôte et confie son paquet. Car de combien peut-on retarder le voyage? C'est une expérience unique. C'est l'expérience que j'ai en faisant le Victor Hugo. C'est cette merveille de voir tous les gens qui écoutent un des chefs-d'œuvre de Victor Hugo. Vous savez, le plus grand chef-d'œuvre pour moi, c'est quand 10 ans après la mort de sa fille, il revient à Guernesey, sur l'atrocité de l'expérience qu'il a traversée pour écrire « Oh, je fus comme fou dans le premier moment, hélas, et je pleurais 3 jours amèrement. Vous tous, à qui Dieu prit votre chère espérance, père, mère, dont l'âme a souffert ma souffrance, tout ce que j'éprouvais, l'avez-vous éprouvé ? Je voulais me briser le front sur le pavé. Puis je me révoltais et par moments terribles, je fixais mes regards sur cette chose horrible et je n'y croyais pas et je m'écriais « Non, est-ce que Dieu permet de ces malheurs sans nom qui font que dans le cœur le désespoir se lève ? Il me semblait que tout n'était qu'un affreux rêve, qu'elle ne pouvait pas m'avoir ainsi quitté, que je l'entendais rire en la chambre à côté, que c'était impossible enfin qu'elle fût morte et que j'allais la voir entrer par cette porte. » Oh, que de fois j'ai dit silence à la parler. Tenez, voici le bruit de sa main sur la clé. Attendez, elle vient, laissez-moi que j'écoute, car elle est quelque part dans la maison, sans doute. Vous savez, quand je dis ça sur le Victor Hugo et que je vois les 1000 personnes au théâtre de la Porte-Saint-Martin pénétrer dans le mystère de Victor Hugo, c'est le sens de l'existence d'un artisan. C'est l'existence qui a été la mienne. Maintenant, à mon âge, ça fait 50 ans que je travaille les textes. Et je suis heureux de terminer par une autre fable qui traduit bien la difficulté de notre métier et de tous les métiers en général. Une fable qui s'appelle « Contre ceux qui ont le goût difficile », tu sais. C'est une drôle de fable. Contre ceux qui ont le goût difficile. Il explique, La Fontaine, que c'est très difficile de plaire à tout le monde. C'est même impossible. Il l'écrit à travers un texte tout à fait remarquable. Il dit, contre ceux qui ont le goût difficile, il le dit, quand j'aurais, en naissant, reçu de Calliope, alors là, c'est un peu compliqué, mais en gros, c'est « Quand j'aurais, en naissant, reçu de Calliope les dons qu'à ses amants cette muse a promis, je les consacrerai au mensonge d'Ésope. Le mensonge et les vers de tout temps sont amis. Le mensonge, à l'époque de La Fontaine, c'est l'invention artistique, c'est l'invention littéraire. Ça s'appelle la fin dans certaines fables. Et là, c'est « Quand j'aurais en naissant reçu de Calliope les dons qu'à ses amants, cette muse a promis, je les consacrerai au mensonge d'Ésope. » Donc, le fabuliste premier, le mensonge, il est très humble en plus, parce que Ésope est moins génial que lui. Il est génial dans l'invention des histoires, parce que c'est Ésope qui a beaucoup inventé, mais le génie de la traduction et de l'adaptation, c'est La Fontaine. « Quand j'aurais en naissant reçu de Calliope les dons qu'à ses amants, cette muse a promis, je les consacrerai au mensonge d'Ésope. Le mensonge et les vers de tout temps sont amis, mais je ne me crois pas si chéri du Parnasse que de savoir orner toutes ces fictions. On peut donner du lustre à leurs inventions. On le peut, je les sais. » Un plus savant le fasse. Cependant, jusqu'ici, d'un langage nouveau, j'ai fait parler le loup et répondre l'agneau. Voilà, là, c'est plus simple. On pourrait commencer la fable là. Cependant, jusqu'ici, d'un langage nouveau, j'ai fait parler le loup et répondre l'agneau. Ça, c'est clair qu'il a fait parler le loup et répondre l'agneau. J'ai passé plus avant, j'ai été plus loin. Les arbres et les plantes sont devenus chez moi créatures parlantes. Qui ne prendrait ceci pour un enchantement? Ça, c'est La Fontaine qui se vante un petit peu. Et là, il fait venir un critique. Vraiment, me diront nos critiques, vous parlez magnifiquement de 5 ou 6 contes d'enfants. Censeur. En voulez-vous qu'il soit plus authentique et d'un style plus haut? En voici. Et là, La Fontaine va essayer de montrer qu'il est capable d'aller dans tous les genres. Et il commence par le côté dramatique. Alors là, il dit « Les Troyens, après 10 ans de guerre autour de leurs murailles, avaient lassé les Grecs, qui parmi le moyen, parmi l'assaut, par 100 batailles, n'avaient pu mettre à bout cette fière cité. » Quand un cheval de bois, par Minerve, inventé d'un rare et nouvel artifice, dans ses énormes flancs, reçut le sage Ulysse, le vaillant Diomède, Ajax l'impétueux, que ce colosse monstrueux avec leurs escadrons devait porter dans Troie, livrant à leur fureur ces dieux mêmes en proie, stratagème inouï, qui des fabricateurs paya la constance et la peine. C'est assez, me dira quelqu'un de nos auteurs. La période est longue, c'est à chier ce que tu fais. La période est longue, il faut reprendre haleine. Et puis votre cheval de bois, vos héros avec leurs phalanges, ce sont des contes plus étranges qu'un renard qui cajole un corbeau sur sa voix. De plus, il vous sied mal d'écrire en si hostile. Ferme ta gueule, La Fontaine, dit le critique. Ça te va très mal d'écrire en si hostile. Eh ben, baissons d'un ton, La Fontaine, c'est un homme du 17e. Eh ben, baissons d'un ton. La jalouse Amarille songeait à son Alcippe et croyait de ses soins n'avoir que ses moutons et son chien pour témoins. Tircis, qu'il aperçut, se glisse entre des saules. Il entend la bergère adressant ses paroles au doux Zéphyr et le priant de les porter à son amant. « Je vous arrête à cette rime, dira mon censeur à l'instant. Je ne la tiens pas légitime, ni d'une assez grande vertu. Remettez pour le mieux ces 2 vers à la fonte. Maudit censeur, te tairas-tu ? Ne saurais-je achever mon conte ? C'est un dessein très dangereux que d'entreprendre de te plaire. » Les délicats sont malheureux, rien ne saurait les satisfaire. C'est extraordinaire. Je voudrais maintenant vous dire au revoir. Voilà, c'est bon, c'est la dernière. J'ai quand même tenu plus que je n'avais imaginé grâce au talent de Adèle Vanrette. Et moi, voilà, reparti dans mon Victor Hugo entièrement, et dans Cioran, et dans les portraits. Ça a été un grand plaisir. J'ai été très perdu au début, parce que je ne connais pas cet exercice d'être là face à un vieux micro, avec une lumière rouge. J'étais un peu perdu. Comme je savais pas mal de textes, je m'en suis vaguement sorti. Mais je voulais vous remercier de la fidélité avec laquelle, paraît-il, vous avez écouté cette émission.
Les admirations littéraires de Fabrice Luchini.
Je remercie pour cette dernière émission Andrea Le Chêne à la réalisation, Delphine Baudet à la technique, Thierry Dupin pour la musique, l'incroyable Emmanuel Garacino qui a mené ce projet jusqu'au bout, et je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Merci beaucoup.